Bonjour, bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous du dimanche de France Inter, de France Info, la télé en partenariat avec le journal Le Monde. Celui qui a accepté notre invitation jusqu'à 13h est syndicaliste, membre de la première organisation syndicale du pays, la CFDT, dont il est le secrétaire général depuis bientôt 9 ans, et c'est important, depuis 3 présidents de la République. Son discours réformiste, pragmatique, qui se veut nuancé, dépasse de plus en plus le strict cadre de la défense des droits des salariés, en témoigne le titre de son dernier livre, Quelle société veut-on, dans lequel il pointe une inquiétude que le début de la campagne présidentielle n'a pas vraiment apaisée chez lui. Comment compte-t-il peser dans le débat dans les mois qui viennent? Quel bilan fait-il du quinquennat d'Emmanuel Macron dont il attendait beaucoup? Et qu'attend-il des derniers mois, notamment sur le front de la réforme des retraites? Enfin, la question sociale peut-elle devenir centrale à l'heure où l'inflation, par exemple, prend des proportions inquiétantes? Ces questions et bien d'autres, nous allons les poser à Laurent Berger, qui est donc l'invité de Questions politiques.
Questions politiques. Thomas Negaroff sur France Inter.
Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Pour vous poser des questions, je serai comme chaque semaine accompagné de la bande de questions politiques. Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Françoise Fressos du Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous.
Et Karine Bécart de France Inter.
Salut tout le monde.
Qui dit salut comme chaque semaine. Et tout à l'heure, on nous rejoindra, j'attendais ça, comme chaque semaine. Alexandra Ben Saïd de France Inter aussi pour des questions économiques. Et plus particulièrement, il sera question des bons chiffres de l'emploi en France. Le hashtag #QuestionPol pour vos questions et vos commentaires. Alors pour commencer, Laurent Berger, l'événement politique de la journée d'hier en France, c'était au Havre, Édouard Philippe, qui lance son parti politique. Le nom est connu, Horizon avec un S. Il veut regarder loin, un peu comme vous, hein, si j'en crois le titre de votre avant-dernier livre, Agir vite, penser loin. En revanche, pas sûr que voir loin, ça correspond exactement à la même chose chez vous et chez lui. On écoute Édouard Philippe hier.
La variable sur laquelle on est certain qu'on ne pourra pas éviter d'y toucher, c'est la durée du travail. La durée de la cotisation. On peut prendre les choses comme on veut. J'ai dit que probablement, il fallait se préparer à 65, 66, 67. Mesdames et messieurs, d'où je tire ces chiffres? Pas de mon chapeau, pas d'une espèce de prédisposition à l'impopularité. L'âge de 67 ans, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça existe depuis au moins 10 ans.
Alors, Laurent Berger, vous n'avez pas le même chapeau que lui?
Non, j'ai surtout pas sans doute la même vision de ce qu'est la réalité du travail aujourd'hui. Je pense que parler retraite, de plus en plus, ça devient compliqué si on ne parle pas du travail. Et à les 67 ans, quand on lance ce chiffre de façon un peu en l'air, comme ça, bon, on peut se dire pourquoi pas 65, 66, 64, 62, peu importe. Mais il faut parler du travail. Aujourd'hui, la moitié des salariés qui partent en retraite sont plus en emploi, sont déjà en inaptitude ou au chômage. C'est vrai, on parle beaucoup du télétravail, etc. Beaucoup de salariés qui sont dans des tâches de production extrêmement compliquées. Je pense aux travailleurs de l'agroalimentaire, je pense aux travailleurs de la propreté, aux travailleurs de la sécurité. Et donc je pense que amener le débat sur la question des retraites sous le seul angle paramétrique avec l'âge, c'est une profonde erreur et ça ne correspond pas du tout aux réalités du monde du travail.
Mais que vous vouliez parler du travail, c'est super, mais il y a aussi la question du financement. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ce système, que ce régime reste équilibré.
Mais la CFDT n'a jamais déserté ses responsabilités sur la question du financement. Ça nous a d'ailleurs été souvent reproché. Donc il n'est pas question de déserter ses responsabilités.
Donc comment vous faites
mais,
pour le financer?
Bien, la question, c'est d'abord, il faudra faire le point de quelle est la réalité du déficit potentiel du système d'assurance vieillesse. Vous savez, il y a 2 ans, pendant la réforme, nous, on s'est opposé, chacun le sait, au Premier ministre de l'époque, qui était Édouard Philippe, parce qu'il a voulu instiller une démarche paramétrique dans la réforme qu'on voulait de justice sociale pour améliorer la retraite des femmes, améliorer la retraite de ces travailleurs qu'on a qualifiés depuis, d'ailleurs, de deuxième ligne, etc.
Les agriculteurs, etc.
Voilà. Mmh. On lui avait dit, c'est une profonde erreur. Le déficit était de 8 milliards. Depuis, vous avez vu comment ça a valsé en termes de financement public sur tout un tas de sujets. Donc nous, on voudra bien porter ce sujet-là de la question de l'équilibre du régime de retraite. D'ailleurs, sur les régimes complémentaires, on assume ces responsabilités.
Mais vous ne dites toujours pas comment vous allez financer.
Comment vous l'assumez? C'est super important là. Vous l'assumez en réduisant au fond le pouvoir d'achat des retraités. Donc est-ce que vous pensez que vous, face au déficit de l'assurance vieillesse, il vaut mieux dire aux retraités vous aurez des pensions plus faibles, plutôt que de poser sur la table l'idée qu'au fond on pourrait travailler plus en France?
On l'assume parce que s'il n'y avait pas eu d'accord sur l'assurance, les régimes complémentaires, il n'y aurait pas eu de revalorisation du tout. Parce que les règles collectives de l'Agirc-Arrco, il faut toujours dire les choses telles qu'elles sont. Les règles collectives de l'Agirc-Arrco, c'est 6 mois de réserve. Avec la crise du Covid, on a puisé dans ses réserves, on est descendu en dessous de 6 mois. Dans ces cas-là, le conseil d'administration a toute latitude pour dire il est possible, on ne fait pas de revalorisation malgré l'inflation parce que on n'est plus à 6 mois, on est en deçà des 6 mois. Et donc, ce qu'a fait la CFDT, et pourquoi les autres organisations qui ne l'ont pas signé ne s'y sont pas opposées, c'est s'il n'y avait pas cet accord, il n'y avait pas de revalorisation du tout pour les
retraités. Donc, il faut dire les choses telles qu'elles existent. Baisser au fond le pouvoir d'achat des retraités accepter que les Français travaillent plus.
Mais moi, c'est les Français travaillent plus. C'est accepter que tous les Français travaillent plus. Ce n'est pas possible, je vous le dis, dans certaines professions, c'est tout simplement impossible.
Donc il faut faire des catégories. Et donc,
sans doute qu'à un moment donné, il faut regarder. C'est déjà le cas. Il y a déjà des professions où les gens, et vous en êtes une d'ailleurs, où c'est vraiment les gens, parfois à l'excès, si je peux me permettre, travaillent travaillent très longtemps. Eh bien, des professions, c'est juste trop impossible. Longtemps. Soyons-le, mais disons-le. Je veux dire, moi, je me déplace toutes les semaines dans des entreprises. Particulièrement dans les entreprises où on est particulièrement fort, c'est les entreprises de l'agroalimentaire, de la propreté, du nettoyage, de l'industrie. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, c'est impossible aujourd'hui quand vous travaillez dans une industrie agroalimentaire, dans le froid, avec des gestes répétitifs. Enfin, franchement, ils ne vont pas à 62 ans. Disons-le, ils ne vont pas à 62 ans. Donc, posons le débat de façon plus globale, qui complexifiera un peu les choses, qui ne sera pas dans le climat actuel, c'est-à-dire en gros, il faudrait cliver autour d'un chiffre, parce que c'est ça qui va arriver finalement. Mmh. Si le débat présidentiel sur les retraites va sur la question de l'âge, on fait une bêtise. Justement, on n'est pas à hauteur de femmes et d'hommes et des enjeux qui se sont posés sur la question du travail.
Partant du principe qu'il est évident qu'on ne va pas confondre le travail de quelqu'un qui est dans la fonction publique ou quelqu'un qui travaille dans un abattoir, est-ce que le débat présidentiel, c'est-à-dire ce qui va nous arriver en 2022, n'est-il pas le meilleur moment pour trancher et pour exposer aux Français quelles sont les visions qu'on a sur le rôle du travail dans la société, celui de la retraite et comment les choses se...
Ah mais j'en suis intimement persuadé, c'est pour ça que depuis maintenant...
C'est ce que dit Edouard Philippe aussi, disant on peut le faire en 2022,
oui,
ça sera
mais il donne
le
la solution, lui. Et la solution, elle est radicale. Elle n'est pas sur le travail, elle n'est pas sur la distinction entre les parcours des professionnels ou les parcours de travail des uns et des autres. Elle est sur un âge, 67 ans. Je crois qu'il faut qu'on ait un débat présidentiel sur la question des retraites. C'est pour ça que depuis quelques mois, je m'oppose, la CFDT s'oppose à ce qu'on rouvre le débat de façon parcellaire.
Mais plutôt qu'on le fasse bien en avril 22 ou en mars 22.
Et surtout qu'on pose le débat. Maintenant. Et dans le débat, si la question est juste, est-ce qu'il faut travailler plus longtemps et l'âge, on fait une erreur profonde.
Mais vous pensez sincèrement que le régime systémique, celui que vous avez toujours défendu, le régime à points, il peut encore s'imposer, passer dans la société?
Non, je ne crois pas, Madame Bécart, que ce qu'on portait repartira de la même manière. Je pense que par contre, on peut aller vers un système... Moi, je renoncerai jamais l'indignation qui est la mienne, qui est celle des militants de la CFDT, que lorsqu'on est une femme, on a 30% de retraite en moins. Jamais. Jamais je me résoudrai à ce que les travailleurs qu'on a qualifiés de deuxième ligne, eh bien, ils ont des retraites inférieures parce qu'ils subissent la précarité, des interruptions de carrière, etc. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, si on pose le débat juste travailler plus longtemps, on oublie cette partie-là. Donc, nous, on se battra pour qu'il y ait une partie qualitative et qui intégrera les réalités du travail avec la pénibilité, l'usure au travail, avec les carrières hachées, avec le fait que quand on est une femme, ben, on subit davantage des interruptions de carrière, etc. On portera cet enjeu-là et on discutera, on verra ce que diront les candidats sur la question de l'équilibre des régimes.
Laurent Berger, Françoise, Laurent Berger, vous dites, vous montrez bien effectivement qu'il y a dans le pays des situations différentes. Je crois que vous êtes l'un de ceux qui connaissaient peut-être le mieux le pouls social du pays. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous le sentez ce pouls? Est-ce qu'il est atone? Est-ce qu'il est énergique? Est-ce qu'il est méprisé? Bref, comment se passe aujourd'hui cette société française que vous connaissez bien? On sent comme une forme de fatalisme au sein du monde du travail. Est-ce que vous aussi, vous la sentez?
Non, je crois qu'il y a une grande conscience des salariés, des incertitudes qui pèsent sur nous. Donc il y a un profond sentiment d'inquiétude. Et ce sentiment très profond qu'il y a une espèce de brouhaha global et une incapacité à regarder les réalités telles qu'elles sont. Regardez, par exemple, en fait, je vais le dire autrement, on réfléchit souvent dans le débat public en termes de macroéconomie. Et la réalité des femmes et des hommes, c'est de la réalité micro. Et donc, on va parler du pouvoir d'achat. Le gouvernement même fait de la communication en disant que le pouvoir d'achat a progressé.
8%.
Voilà. Il faudra regarder de quelle catégorie il a progressé. Et puis après, lorsque vous êtes un travailleur de l'agroalimentaire et qu'on vous a proposé, alors qu'il y a une inflation à 1,9, on a proposé aux organisations syndicales un accord salarial à 0,6, on a l'impression que vous êtes méprisé. Et quand vous dites que le pouvoir d'achat, c'est pas grave à progresser, on a l'impression qu'on vous prend un peu pour un idiot, pour pas dire plus. Lorsque vous êtes dans les transports, vous avez la même perception. Donc ça veut dire que le climat, il est incertain. D'abord parce qu'on a le sentiment qu'on n'est pas, on parle pas forcément de ces réalités. Et puis le deuxième élément qui me paraît extrêmement important, c'est que les travailleurs et travailleuses, ils sont très conscients de ce qui les attend. C'est-à-dire très conscients de ce qui les attend en termes de bouleversement de notre modèle productif lié à la transition écologique. Il faut pas les prendre pour des idiots. J'étais à Douai avec les collègues de Douai, de Renault, il y a quelques semaines. Ben, ils sont conscients qu'il y a une transition écologique qui se profile et que ça va avoir des conséquences.
Donc ils sont conscients
et
que leur entreprise va fermer, par exemple?
Non, mais à Douai, elle va pas fermer puisqu'il y a une réorientation avec le moteur électrique. Mais ils sont conscients que ça va bouleverser des choses,
mais ça,
notamment
ils le vivent,
en termes de compétences.
Ils le vivent avec inquiétude ou aussi avec espoir d'une évolution possible et positive du monde du travail.
Eh bien, d'abord, ce sont des citoyens à part entière, pas juste des travailleurs qui demandent que d'autres réfléchissent à leur place quand ils sont travailleurs. Et ils sont conscients qu'il faut faire face à ces transformations et ils veulent être écoutés. Il faut, dans le point de bascule qui est le nôtre aujourd'hui, de transformation du modèle productif avec la transition écologique, d'inégalités qui se creusent, quoi qu'on en pense, qui se creusent, eh bien, ils veulent qu'on les entende, qu'on les écoute. Et c'est ça, en fait, l'enjeu, c'est de mettre de la négociation face aux bouleversements qui sont les nôtres, un peu partout dans la société. C'est ça qu'il faut, je crois, prendre conscience. On n'attend pas de la personne providentielle qui va régler tous les problèmes de chacun.
Est-ce que ça veut dire, pour vous, syndicalistes, qu'au fond, maintenant, il faut être au plus près du terrain et peut-être privilégier les négociations dans l'entreprise davantage que dans le passé ou pas?
Pour un syndicaliste, il faut être au plus près du terrain. Ça, c'est une certitude. Et d'ailleurs, la CFDT s'en est aperçue il y a longtemps, en fait, parce qu'on se demande mais pourquoi la CFDT est devenue tout d'un coup la première organisation syndicale. Tout simplement parce que nous, on investit sur nos militants et militants d'entreprise pour qu'ils résolvent au concret les situations. Je vais vous dire, juste dans les 15 derniers jours, les aides à domicile, 15% d'augmentation suite à un accord négocié par la CFDT dans cette convention collective. Les paysagistes, plus 5% d'augmentation, parce qu'il y a un accord négocié. On est en train de se battre aujourd'hui dans les hôtels, cafés, restaurants. Il y a une ouverture de la chambre patronale. On est en train de se battre. Dans chaque
ils disent
entreprise,
10%, enfin ils sont prêts jusqu'à
oui,
9%.
Il faudra voir parce qu'on est habitué avec ces chambres patronales à ce qu'ils donnent d'un côté, mais ils demandent à l'État de leur verser de l'autre.
Donc, mais vous demandez combien vous plus de 9%.
Nous on demande une augmentation salariale qui soit à hauteur de 10%, mais on demande aussi qu'on travaille sur les horaires de travail, sur les dimanches, sur voir comment on articule les temps, parce que on sait que c'est beaucoup lié à ça les difficultés de recrutement. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, les organisations syndicales, elles ont besoin d'aller en permanence répondre aux préoccupations concrètes. Mais, et moi, j'y vais moi-même. Deux, trois jours par semaine, je vais à la rencontre des équipes, parce que je crois que c'est là qu'on perçoit le mieux les choses. Mais la CFDT, elle revendique, ça a été dit, vous l'avez dit Thomas, c'est que elle revendique aussi d'avoir une vision un peu plus large que simplement la réponse aux situations concrètes, c'est qu'on doit porter une vision du monde du travail qui se projette vers autre chose. Et là, on est à ce point de bascule, et moi je comprends pas, je vais vous dire, très franchement, je comprends pas qu'on se saisisse pas de la fin de cette crise sanitaire, en plus il y a une élection présidentielle, pour se dire, bon, finalement, c'est quoi les perspectives demain? C'est quoi les perspectives? On va dire, face à la transition écologique, on a une révolution technologique qui est énorme en termes d'impact sur le travail, impact sur la société aussi. On a des inégalités qui se creusent, et une société qui se fracture. Eh bien, est-ce que c'est pas le moment de se redéfinir des nouveaux indicateurs les uns avec les autres? C'est quoi, ça doit être quoi le progrès demain? Et de poser les débats et de comprendre que tout ça sera pas simple.
Mais mardi,
d'intégrer la complexité des sujets qui sont devant nous.
Mardi, le président Macron va en parler, notamment France 2030, son plan à 30 milliards, c'est quand même pour essayer de définir la France de demain, les filières qu'il va falloir privilégier.
Oui, il y a des choses intéressantes sur lesquelles on a fait des propositions, notamment tout ce qui est les semi-conducteurs, les biotech, la santé. Ça manque 30 milliards, c'est faible face aux enjeux qui sont là. Il faudra que ce soit accompagné d'un vrai plan d'évolution des compétences. C'est-à-dire que le moment qu'on traverse là sur la nouvelle, il faudra qu'on puisse se dire que ça nécessite qu'on accompagne à hauteur de femmes et d'hommes les salariés. Et puis le dernier point, je vais vous dire sur ce plan d'investissement, c'est qu'à un moment donné, il faut aider économiquement, va falloir conditionner ces aides publiques aux entreprises.
C'est-à-dire?
Eh bien, ça veut dire qu'il va falloir qu'ils aient des logiques de traiter correctement leurs sous-traitants, de créer de l'emploi, de créer de l'activité. Je vais vous prendre un exemple. C'est une entreprise qui travaille dans l'automobile qui s'appelle Alvance Aluminium Wheels, qui est située dans l'Indre. Cette entreprise, elle fait des jantes aluminium. Aujourd'hui, elle aurait besoin que les grands constructeurs de l'automobile, PSA, Renault, lui donnent une charge de travail, investissent, notamment pour qu'elle se transforme et puis qu'elle puisse s'adapter aux futurs véhicules électriques. Eh bien, ils ne le font pas. Ils ne le font pas en se disant, si cette entreprise, elle meurt, et on ira chercher à moindre coût ailleurs les jantes dont on a besoin, eh bien, il y a 16 milliards d'euros qui sont donnés à la filière automobile aujourd'hui.
Mais
16 milliards d'euros qui sont donnés, eh bien, il faut que les grands constructeurs, ils aient l'obligation, par exemple, dans cette entreprise, de passer des commandes pour qu'on permette à cette entreprise et à ses salariés de vivre demain. C'est ça dont il faut parler dans France de 2030, c'est aussi comment on régule davantage l'économie.
Parce que sinon, il va y avoir une casse sociale qui va être très forte quand même.
On sait bien la transition écologique, mais aussi la tentation d'aller des logiques de low cost nous emmène toujours vers des suppressions d'emplois.
France Inter. Question politique.
On poursuit la discussion avec Laurent Berger sur cette question effectivement du monde du travail, de la société fracturée dans un monde du travail qui va se bouleverser. Vous avez évoqué la question de l'importance du rôle de l'État, des milliards. On a appris cette semaine le volume de l'évasion fiscale à l'échelle mondiale. C'est les Pandora Papers qui l'ont révélé, un consortium de journalistes d'investigation. On a dans le même temps des débats sur la fraude sociale dans le pays. Comment est-ce que vous voyez ces débats, vous, en tant que leader syndical ?
Sur la fraude fiscale, enfin, ou l'optimisation fiscale, on peut. Oui. Il y a deux éléments. C'est d'abord de combien ça prive les ressources publiques de revenus. Gabriel Zucman dit que c'est 55 milliards à l'échelle européenne. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec 55 milliards à l'échelle européenne pour aider la transition écologique, aider le monde du travail, aider les jeunes, construire des politiques de solidarité. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'optimisation fiscale d'un certain nombre d'entreprises, ça prive les travailleurs d'une partie de la richesse créée. Parce que si vous faites partir une partie des ressources avant d'avoir le moment où on discute de combien on consacre aux actionnaires, combien on consacre à l'investissement, mais combien on consacre aux travailleurs qui ont produit aussi cette richesse, il y en a moins à redistribuer. Donc c'est un vrai problème. Et là, il faut que l'Europe instaure de la régulation. Il faut remonter la liste, enrichir entre guillemets la liste des paradis fiscaux. Il faut, je crois, avoir une logique d'éthique de tous ces cabinets qui conseillent les entreprises pour savoir comment ils peuvent faire, etc.
Faut les fermer. Faut les fermer, ces cabinets de conseil et d'optimisation fiscale.
Il faut leur donner une charte éthique, des obligations pour qu'ils puissent pas avoir comme seule logique de faire que l'entreprise optimise fiscalement en permanence.
Alors il y a eu quand même un événement mondial en fin de semaine, c'est cet accord au fond des pays industrialisés, beaucoup de pays sur la taxation minimum des multinationales, 15%, avec redistribution d'une partie aux pays d'origine. Est-ce que vous pensez pas que c'est maintenant le niveau pertinent pour faire rentrer les rentrées fiscales, c'est-à-dire passer par des accords multinationaux, parce que c'est là, au fond, que se cache l'argent sale ou l'argent qui va dans les paradis offshore.
D'abord, c'est une bonne nouvelle. Je sais que c'est critiqué, certains disent que c'est pas assez, etc. C'est une bonne nouvelle quand il y a de la régulation mondiale. Moi, je suis de ceux qui pensent encore que le multilatéralisme a de l'intérêt, et je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle. Est-ce que c'est suffisant ? Évidemment non, il faudrait aller un peu plus que 15%. Mais oui, c'est le bon niveau. Mais on pourra pas tout attendre dans un premier temps du multilatéralisme. Il y a aussi un niveau européen qu'il faut construire et consolider. Et sur cette question de l'optimisation fiscale, je pense qu'au niveau européen, faut qu'on aille beaucoup plus loin.
Mais c'est difficile, hein, sans l'accord des États-Unis ou l'accord des autres pays, c'est
difficile.
Oui,
mais
vous aimeriez un impôt européen ?
C'est difficile. Non, mais
c'est
moi,
un tabou.
Pense,
hein, c'est un des grands tabous européens.
En tout cas, ma vision de l'Europe fait que de plus en plus, j'aimerais qu'on s'intègre, qu'il y ait une intégration européenne de plus en plus forte.
Vous êtes de plus en plus fédéraliste à la CFDT ?
Non, je suis plus en plus européen. Et ma responsabilité de président de la Confédération européenne des syndicats me démontre chaque jour que si on ne crée pas plus d'intégration européenne, on va avoir un délitement de l'Europe. Parce que chacun va se replier sur ses propres petits enjeux. Et ça concernera les questions économiques, les questions sociales. On le voit, ça concerne déjà les questions de valeur, en fait. Et donc je suis assez inquiet, moi, par exemple, dans le débat public aujourd'hui, lorsqu'on dit non, mais c'est normal que les États se soustraient à la Cour européenne de justice.
Donc parce vous parlez de la Pologne, là, en ce moment?
Ben oui, de la Pologne, de la Hongrie. Enfin, c'est juste, on ne peut pas tolérer ce qui est en train de se passer.
Et un peu du débat français qui monte un peu autour.
Oui, du débat français qui monte, en gros. Oui, bien sûr. En gros, on pourrait dire... moi, je suis choqué quand j'entends que, finalement, l'Europe, la Pologne, elle a bien le droit de faire ce qu'elle veut, y compris si elle a les logiques homophobes. Parce que demain, cette logique-là, c'est la fin de l'état de droit et des valeurs qui ont fondé l'Europe.
Mais donc, comment on réagit comment on la force à...
Et puis Nathalie, je crois qu'il y a des tensions, il y a des pressions à opérer, des sanctions à opérer sur les pays qui ne respectent pas les valeurs fondamentales de l'Europe.
Revenons un tout petit peu sur les questions de fiscalité et concernant la France. Est-ce que vous considérez que Emmanuel Macron a fait ce qu'il fallait? Et est-ce que vous considérez que pour le nouveau quinquennat, il doit y avoir soit une augmentation d'impôts de certains? Comment vous voyez la philosophie générale? On a cru comprendre, dans un certain nombre d'études d'opinion, que globalement, le ras-le-bol fiscal était étendu à de nombreuses catégories, de gauche comme de droite, même chez les insoumis. Est-ce que vous considérez qu'effectivement, on a atteint un degré qu'on ne peut pas...
Ben moi, vous savez, je pense que le ras-le-bol fiscal... D'abord, qui est un mot terrible, parce que la fiscalité, c'est ce qui nous permet de vivre les uns avec les autres. Donc, je me rappelle, c'est un ministre de gauche qui avait lancé cette expression-là. Oui, et j'avais à l'époque dit que je trouvais ça déplorable. Elle est basée souvent, ce ras-le-bol fiscal, il est basé sur l'injustice fiscale. C'est-à-dire que, vous savez, les Français, ils ont, individuellement, sans doute, pour certains d'entre eux, ils disent qu'ils payent trop d'impôts. Mais par contre, quand le prof de leur gamin n'est pas là, ils aimeraient bien qu'il soit remplacé plus vite. Et puis, on a bien vu pendant la période de crise sanitaire qu'on était bien content qu'il y avait des professionnels de santé. Et puis, c'est pareil, lorsque les rues, j'ai vu qu'il y avait une enquête dans un... les rues ne sont pas assez nettoyées, on est bien content quand il y a des gens qui viennent les nettoyer, etc.
Donc c'est peut-être mieux les impôts mieux utilisés, pas forcément plus d'impôts.
Moi, je pense que dans ce quinquennat, il y a eu un choix qui a été fait, en tout cas largement au début, entre 2007 et 2019, qui a été de privilégier les très hauts revenus. Avec une théorie, même s'ils s'en sont défendus, une théorie que ça ruisselait. C'est pas ce qui s'est produit, on le sait tous. Moi, je pense qu'il faut, une réforme fiscale. Mais c'est pas que sur ce quinquennat qu'on pourrait faire cette critique.
Quelle base,
il faut que les revenus du capital soient taxés au même niveau que les revenus du travail.
C'est ce qu'avait fait François Hollande.
Il faut... Il faut que les revenus du capital soient taxés au même niveau que les revenus du travail. Il faut qu'on intègre la question de qu'on réfléchisse ensemble à la question de la fiscalité du patrimoine.
Et ça fait pas fuir les entreprises.
10%, non.
Sur la fiscalité du patrimoine.
Non. Ça fait pas fuir les entreprises. Faut arrêter. Avec ça, je crois que, on s'est nourri de ça pendant longtemps pour dire qu'on peut pas bouger. Non, si c'est juste, ça fait pas fuir les entreprises. Je crois qu'il faut aussi regarder. Vous savez, moi, ça m'arrive parce que je suis quelqu'un de très ouvert. Ça m'arrive de discuter avec des représentants, d'entreprises françaises en France. Ils vous disent, ils vous vantent les infrastructures, ils vous vantent un certain nombre de facilités, de droits sociaux, etc. Donc, il faut, je crois qu'il faut vraiment poser les choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... qu'est-ce qui a fonctionné pendant cette crise sanitaire? Qu'est-ce qui a fait qu'on continue aujourd'hui? On peut se dire d'ailleurs qu'on est satisfait parce que finalement, ça a tenu quand même. Eh bien, deux piliers fondamentaux de notre modèle social. La protection sociale. Vous savez, moi, je suis président de la CES. Le chômage partiel en Tchéquie, c'est pas exactement le chômage partiel en France. L'accompagnement de la santé, c'est pas exactement la même chose en France que dans d'autres pays européens. Donc notre protection sociale, même si il faut l'aménager, il faut l'améliorer, il faut combler les trous dans la raquette qu'elle peut avoir. Le deuxième pilier, c'est les services publics, qui sont un vrai vecteur de réduction des inégalités. Est-ce qu'on peut pas les revoir, les organiser différemment? Sans doute. Il n'y a pas de tabou là-dessus à la CFDT. Mais et ça se finance comment? Ça se finance par la contribution des uns et des autres à ce qui est finalement un bien commun. Et moi, je suis assez inquiet qu'en sortie de crise, la logique puisse être, en Europe peut-être, mais en France aussi dans le débat présidentiel, finalement, la logique, c'est une logique austéritaire. On l'a vu ce que ça a donné, y compris démocratiquement, après la crise de 2008-2009. Et donc, oui, il faut reposer la question de la fiscalité. C'est pas forcément
juste
plus d'impôts, c'est mieux d'impôts.
Vous avez pas poursuivi. Ça veut dire quoi, concrètement, revoir la fiscalité du patrimoine? Tout le monde est très frileux sur ce sujet.
Oui, tout le monde est très frileux parce que, on peut le comprendre, parce que j'ai vu ces citoyens en disant, moi, j'ai travaillé toute ma vie. Vous savez, moi, je suis un enfant d'ouvrier. travailler toute ma vie. Le jour où je passerai mon pavillon, voilà, je transmettrai. Si je suis taxé dès le premier euro, bah, vu le prix du pavillon en question, ça fait peut-être 200 ou 300 euros.
Réforme du droit des successions.
Oui, la réforme du droit des successions. Mais oui, mais 10% de la population française possède 50% du patrimoine dans notre pays. Si ça, c'est pas un vecteur d'inégalité, j'y connais rien aux inégalités.
Ça veut donc dire, pour résumer, hein, que vous voulez qu'on taxe davantage les successions parce que vous dites que c'est là que se joue la réduction des inégalités dans ce pays.
C'est là que se joue la réduction, une partie de la réduction des inégalités, et c'est là que se joue la possibilité de financer des risques au sens besoin de financement en protection sociale qui sont parfois nouveaux. Je prends notamment un exemple qu'on repousse sans arrêt, c'est la prise en charge de l'autonomie, même si dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y a des mesures sur le sujet, et je les salue, parce qu'encore une fois, j'essaye d'être nuancé, mais on n'arrive pas à avoir cette loi grand âge qui est absolument nécessaire, qui intègre de vieillir mieux, y compris chez soi pour une part, ou dans des établissements plus performants, et de l'autre côté, de professionnaliser des secteurs où c'est encore de la précarité et des travailleurs pauvres qui s'occupent de nos anciens. Donc on a besoin de cette loi, et ça nécessitera des financements. Et maintenant, on peut se demander où on va les chercher, par exemple, sur une fiscalité du patrimoine qui serait autre.
Toute petite question sur l'assistance chômage. Il y a eu une révision, une réforme contre laquelle vous étiez, parce qu'un certain nombre de personnes de la majorité ou à droite disent qu'ils ont l'impression qu'il y a un sentiment d'assistanat dans le pays. Vous allez me dire qu'on fait toujours le coup de l'assistanat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, bah voilà, il y a 1 million, voire plus d'emplois qui sont non pourvus. La croissance reprend. Et à côté de ça, si on visse pas un peu les boulons du côté de l'assurance chômage, eh bien, les gens n'auront aucune incitation à retourner au travail. Vous trouvez que c'est totalement idiot, cette idée d'assistanat?
Oui, c'est idiot, mais d'abord je vais vous dire une chose, c'est qu'au moins le gouvernement a réussi son coup. Quand il a lancé cette réforme-là, du temps où c'était Madame Pénicaud qui était ministre du Travail, il disait qu'il y aurait encore 1,5 milliard d'économies. En fait, les dernières prévisions prévoient 2,2 milliards d'économies. Quand il y a 2,2 milliards d'économies qui concernent 1 million de personnes, il faut juste se dire que sans doute ça ne va pas leur faire du bien. Moi je suis contre cette réforme. On a déposé le recours au Conseil d'État vendredi, parce qu'elle est injuste. Elle va toucher qui? Il faut juste qu'on se dise qui ça touche. Ça touche des gens qui travaillent et qui alternent avec des périodes de chômage. Donc ils subissent de la précarité. Est-ce que c'est de leur faute? Moi j'ai plutôt le sentiment que c'est ceux qui leur proposent des contrats de travail qui sont un peu en responsabilité sur ce sujet-là, c'est-à-dire les employeurs. Ces gens, ces personnes, ces demandeurs d'emploi, mais qui sont aussi des travailleurs, donc je ne sais pas trop comment les appeler, et les permittents, ça les renvoie à un truc dont personne ne sait ce que c'est, ils touchent aujourd'hui aux alentours de 880 euros en moyenne. Ils vont descendre à 620, 650 par mois. Ben, je vous laisse juste imaginer, y compris au moment où il y a une augmentation des charges fixes liées au coût de l'énergie, etc. Je vous laisse juste imaginer ce que ça va produire. Si c'est des assistés, ils travailleraient...
Je ne sais pas dire.
Non, je ne sais pas, mais ils ne travailleraient pas, et ils travaillent. Donc c'est une réforme très très dure, et je donne rendez-vous à la ministre, Madame Borne. Je lui dis, rendez-vous dans 6 mois, dans 1 an, on évalue ça. Et puis, on se dit, est-ce que ça fait baisser la précarité? Alors là... Vraiment, j'y crois pas du tout. Est-ce que ça a permis aux gens de vivre dignement? Et ça, malheureusement, je crois pas non plus.
France Inter. Question politique. Thomas Negaroff.
Alors, pour vivre dignement, il faut dans ce pays souvent travailler, même si vous le dites, ça ne suffit parfois pas pour vivre dignement. Alexandra Benseï nous a rejoint pour évoquer les bons chiffres qu'on n'attendait pas forcément sur le front de l'emploi.
Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Le chiffre de la semaine, c'est celui en effet du chômage. On sort de la crise, c'est curieux, mieux qu'on y est entré. Cet automne, nous dit l'INSEE, le chômage il sera sous les 8%, 7,6% exactement de taux de chômage. Est-ce que pour vous c'est une surprise ou bien est-ce que c'est exactement cela que vous voyez sur le terrain?
Non, c'est une bonne surprise qu'on soit mieux sur la situation de l'emploi qu'on le craignait tous il y a un an. Enfin, je veux dire, faudrait être cynique pour croire que c'est pas une bonne surprise, y compris quand on a un syndicaliste. Oui, moi je suis content qu'il n'y ait pas eu le flot de faillite, qu'il n'y ait pas eu non plus les suppressions d'emplois, les plans sociaux qu'on craignait il y a encore un an. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais les chiffres macroéconomiques qui sont donnés cachent des réalités extrêmement diverses.
Est-ce que vous avez des inquiétudes pour qui et pourquoi?
Moi j'ai des inquiétudes pour tous ceux qui sont aujourd'hui dans un chômage de longue durée et qui ont des difficultés à retrouver un emploi. Parce que depuis février 2020, il y a 230 000 demandeurs d'emploi de longue durée de plus qu'il y en avait en février 2020. Aujourd'hui, il y a 2,8 millions de personnes qui sont en chômage depuis plus d'un an dans notre pays. Et moi, j'ai des inquiétudes pour eux. C'est pour ça qu'on a demandé au gouvernement, par exemple,
Il y a un nouveau plan, oui.
Oui, ce plan, c'est une demande qu'a fait la CFDT. En juin dernier, on a rediscuté avec le Premier ministre le 1er septembre, pour qu'il y ait un plan d'accompagnement de ces demandeurs d'emploi longue durée.
Alors, quand même, le contexte a changé. Hein. Si on dit que le chômage, les chiffres vont mieux, on a 500 000 de création d'emplois cette année, on a un plan de relance qui est en train d'infuser, un plan d'investissement qui va arriver, de la croissance prévue l'an prochain. Vous l'avez évoqué, vous refusez toujours la réforme de l'assurance chômage. Mais quand même, quand ça va mieux, quand il y a des offres, est-ce que c'est encore justifié?
Mais est-ce que c'est justifié de faire une allocation de quelqu'un qui a cotisé de 800 euros par mois, alors que la personne a travaillé, s'est créé des droits? C'est pas injustifié du tout.
Et on cotise plus pour l'assurance chômage, c'est ça?
Vous payez de la CSG. Voilà.
C'est beaucoup. Les cotisations d'assurance chômage, ont été supprimées en 2018.
Mais enfin, en tout cas, c'est encore une logique assurantielle. C'est la réforme. Elle n'a pas supprimé la logique assurantielle, la réforme. Donc c'est encore une logique assurantielle, les gens se créent des droits. Et puis, si ce n'était pas le cas, parce que peut-être ce ne sera pas toujours le cas, on fera avoir les projets des uns et des autres. En tout cas, lorsqu'on travaille, on alterne des contrats courts, est-ce que c'est illogique d'avoir une allocation? Vous savez, c'est quand même... Moi, je trouve une part d'indécence, pas chez vous évidemment, mais une part d'indécence à tous ceux qui veulent se regarder du côté des demandeurs d'emploi, et on n'est pas en train de regarder qu'elle a été, par exemple, dans certaines entreprises qui ont été aidées financièrement, pendant cette crise, où on a quand même versé des dividendes. Faut arrêter.
Aurait dû conditionner.
Les personnes dont on parle, la million de personnes qui vont être concernées par cette réforme d'assurance chômage, ce sont des femmes, des hommes qui galèrent. Excusez-moi de le dire comme ça, qui galèrent, qui alternent les contrats. Alors évidemment, vous allez toujours trouver un jour celui ou celle qui en abuse, etc. Et alors?
Mais c'est ce que disent, vous avez lu sans doute cette tribune d'économistes dans Le Monde. Il y a quand même parmi les signataires, il y a Jean Tirole, il y a Olivier Blanchard, l'ancien patron chef économiste du FMI. Ils disent, en réalité, la logique c'est de dire qu'il y a une reprise, il faut éviter de retomber, il faut revoir les règles pour éviter de retomber dans ce cercle vicieux des contrats courts qui explosent.
Oui, mais
c'est justement pour éviter la précarité. Est-ce qu'ils se trompent, ces économistes?
Mais je n'arrive pas à comprendre la logique, excusez-moi, je suis peut-être pas assez... réfléchis, mais je crois pas. Je n'arrive pas à comprendre la logique que pour éviter la précarité, on tape sur les précaires. Si vous voulez, et pour éviter la précarité énergétique, d'ailleurs les mêmes qui vont la subir, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à chauffer cet hiver, il faut taper sur les gens, les citoyens qui ont du mal à chauffer. Donc, c'est quoi cette logique? Excusez-moi, mais on parle pas de demandeurs d'emploi qui touchent 2 ou 3 000 ou 4 000 ou 5 000 euros d'allocation. On parle de gens qui sont en situation de pauvreté, parce qu'on est en situation de pauvreté quand on touche... Et qui vont encore plus l'être demain.
Vous ne comprenez pas, mais ça veut dire que vous pensez qu'il y a une autre logique. Vous dites, je ne comprends pas cette logique,
oui,
ça ne tient pas debout.
Logique,
quelle est l'autre logique?
L'autre logique, c'est d'abord une logique d'accompagnement de ces personnes, et on l'avait dit dès le départ, c'est qu'il faut inciter les entreprises à arrêter avec la succession des contrats courts.
Mais quelle est la logique poursuivie par cette réforme de l'assurance chômage vous ne comprenez pas la logique actuelle?
La logique, on la comprend depuis le début. D'ailleurs, nous, on avait eu la lettre de cadrage quand il a fallu qu'on négocie avec les organisations patronales, c'était vous faites 1,5 milliard d'économies. La logique, c'est celle-là. Et là, bingo, ce sera 2,2 milliards, selon les projections de l'UNEDIC. Donc, ça veut dire que l'objectif pour le gouvernement sera atteint. Est-ce que l'objectif sera un objectif de justice sociale? Alors là, clairement, non, désolé, ça, c'est à côté du... Ça tombe à côté, quoi.
Alors...
Mais c'était pas l'objectif, c'est vrai. L'objectif est de faire des finances, des économies. Mais disons-le quand même, de faire des économies sur les plus pauvres, les travailleurs les plus pauvres. Enfin, excusez-moi, comment voulez-vous qu'on trouve ça juste? Moi, on m'a interpellé, le Premier ministre m'a interpellé quand on s'est dit, vous tapez très fort sur l'assurance chômage, la CFDT qui est si d'habitude mesurée, constructive, et je l'assume d'ailleurs d'être constructif, mais je lui ai dit, mais si vous ne comprenez pas que quand on tape sur les plus fragiles, vous trouvez la CFDT en face, c'est que tout simplement, vous n'avez pas compris la CFDT.
Alors, les plus fragiles, et maintenant, les 16-25 ans. Un autre sujet, c'est le revenu d'engagement pour les 16-25 ans, en tout cas ceux qui ne sont ni en emploi, ni en formation. Le chef de l'État l'a annoncé, ce revenu d'engagement, le 12 juillet dernier. Mais il reste dans les limbes. En cette rentrée, on n'a pas d'annonce. On comprend même que, vu qu'il y a des offres, qu'il y a de l'emploi, eh ben, ça va être vu à la baisse. Ça ne sera pas 1 million de jeunes qui vont être concernés, mais sans doute 1,5 million, la moitié. Qu'en pensez-vous?
Bah, je pense que il y a deux problèmes là-dessus. C'est d'abord ce problème que 1 million de jeunes qui sont aujourd'hui sans qualification, sans formation, sans emploi dans notre pays, n'ont aucune possibilité, s'ils ont moins de 26 ans, d'avoir une allocation s'ils ne sont pas aidés par leur famille. Ça veut dire qu'il y a une galère vécue par ces jeunes qui n'ont pas accès aux minima sociaux auxquels les plus de 26 ans peuvent avoir accès quand ils sont vraiment en situation difficile. Ça, c'est injuste. Moi, je ne me battrai pas sur la dénomination RSA jeune, etc. La CVT, elle a toujours milité pour une garantie jeune universelle.
C'est ce qui existe.
Oui, mais cette garantie jeune, elle n'est pas universelle aujourd'hui. C'est pour quelques jeunes, mais qui prouve son efficacité. Toutes les évaluations, d'ailleurs, montrent que c'est plutôt efficace. Qui, en gros, donne une allocation et en même temps un contrat, d'une certaine manière, un accompagnement vers l'emploi, vers la formation. Moi, je crois à ces dispositifs. Le gouvernement dit, ben, banco, on va le faire en juillet. Aujourd'hui, il nous dit, on ne sait pas, mais les bruits courent que ce serait 500 000. Écoutez, aujourd'hui, il y a presque 200 000 jeunes qui sont en garantie jeune universelle et 300 000, presque 300 000 qui sont en contrat d'accompagnement des jeunes dans un dispositif qui s'appelle CIF, je crois.
Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire
contrat d'insertion pour la jeunesse. Eh bien, je suis en train de dire que si c'est 500 000 qui sont annoncés, ce sera un tour de passe-passe, mais ça existe déjà. Et je trouve que ça mérite mieux quand on s'adresse à la jeunesse que de faire un tour de passe-passe.
Et ça mérite mieux, ça mérite qu'on s'indigne et que la CFDT mette
en place cette garantie jeune universelle, tout simplement parce que les jeunes, il y a eu des choses de fait pour les jeunes, je tiens à le dire là aussi, excusez-moi pour ceux qui voudraient qu'on mette toujours les choses en contradiction, il y a eu des choses de fait avec le plan Un jeune, une solution, pour des jeunes qui ont pu trouver une solution grâce à ça, notamment il y a une belle réussite collective sur l'apprentissage, mais il y a encore des jeunes qui galèrent, et ces jeunes-là, ils ont besoin de cette garantie jeune universelle, ce contrat d'engagement, on appelle ça comme on veut, qui leur offre une allocation, un accompagnement, et que ce soit ouvert à tous ces jeunes. Ce million de jeunes qui sont ce qu'on appelle des NEET au niveau européen, c'est-à-dire sans emploi, sans qualification.
Vous savez ce que disent certains chefs d'entreprise, justement, à propos de l'apprentissage? Ils disent, si on fait cette garantie pour les 16-25 ans, elle sera payée à peu près autant que l'apprentissage, et en fait, c'est moins exigeant, ce revenu d'engagement, que l'apprentissage. Donc franchement, c'est un mauvais signal pour la valeur travail pour les jeunes.
Bien sûr, en fait, si on résume, dans la tête de certains, les chômeurs sont des profiteurs, les jeunes sont des feignants, les salariés veulent pas travailler jusqu'à 67 ans, etc. Enfin, franchement, moi, je suis inquiet avec ce type de logique sur la représentation qu'on se fait de la jeunesse, la représentation qu'on se fait des travailleurs. C'est pas vrai. Et si l'apprentissage, ça marche, je vais vous dire, moi, cette semaine, j'ai encore aidé un jeune à essayer de trouver une entreprise pour son apprentissage. Et comme par hasard, vous savez, cette semaine encore, il était noir. Il y a encore des difficultés de recrutement. L'apprentissage, ça marche, mais il y a encore des discriminations que subit cette jeunesse. Donc, au bout d'un moment, si vous voulez, il faut arrêter de croire que parce qu'on aiderait la jeunesse, on la conforterait dans une espèce de paresse. Ils ont envie de bosser. Ce jeune-là, je vais vous dire, il galère comme une bête pour trouver une entreprise à Lyon.
Et dans quel secteur ?
À Lyon, dans la vente. Il galère. On va finir parce qu'il y a des employeurs très très courageux, très très bien, qui font faire le boulot. Donc,
mais c'est une exception, cette discrimination, vous êtes en train de nous dire, c'est un phénomène majeur dans le monde du travail.
Mais la jeunesse, c'est pas une exception. Vous savez, je fais ça depuis une dizaine d'années, à aider des jeunes qui nous sont envoyés à trouver des lieux d'entreprise. On trouve toujours les chefs d'entreprise qui jouent le jeu. Mais n'empêche que dans un processus de recrutement normal, toujours les mêmes sont discriminés. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des logiques d'accompagnement des jeunes qui ont envie de s'en sortir et pas des logiques de crainte de ce qui se ferait, qui ne serait pas courageux, etc. Donc ces revenus d'engagement, il faut que le gouvernement le fasse, assume cette politique juste et j'espère qu'il ne va pas reculer.
Vous m'emmenez sur l'immigration de vous-même. Hein. Dans le discours de campagne en ce moment, on a quand même cette idée, je ne sais pas à quel point elle infuse parmi les salariés que vous rencontrez, que peut-être que si on supprime l'immigration légale, illégale, bah, ça ira mieux. Hein. Le financement de la protection sociale, ça ira mieux. Le chômage s'abaissera. Quand vous rencontrez des gens qui vous tiennent ce raisonnement, que leur répondez-vous ?
D'abord, je ne vous emmène pas sur le terrain de l'immigration. Hein. Je vous parle de discrimination.
Vous me parlez d'origine.
Les jeunes dont je vous parle, ils sont largement aussi français que vous et moi. Et sur le terrain de l'immigration, vous savez, les salariés n'en parlent pas sur le terrain. Vous savez, j'étais hier dans un débat au rendez-vous de l'histoire à Blois. On parlait du travail. Pendant une heure et demie, on parle du travail. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui prend la parole dans la salle qui dit « Il y a un éléphant dont on ne parle pas dans la salle qui est présent, c'est l'immigration. » Ben non, c'est pas l'immigration. Le sujet de l'immigration, ça passe. Et toutes les enquêtes sérieuses le montrent. C'est un sujet qui est en bas de liste, à part pour les électeurs du Front National. Mais pour tous les autres, et donc pour les salariés que moi je rencontre, le sujet de l'immigration n'est pas le sujet.
Dernière question.
toujours dans ces thèmes de campagne, quand vous entendez, vous, le leader syndical, la France est un pays qui s'appauvrit, c'est un pays qui chute économiquement, est-ce que c'est une réalité ?
Non, mais c'est un pays qui est très inquiet sur son devenir, et c'est un pays où il y a de belles choses, il y a un bon système quand même de protection sociale, il faut le dire, il y a du dynamisme économique, il y a des gens intelligents, on investit, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire plein de choses, il y a des chefs d'entreprise qui innovent, des travailleurs qui sont performants. Et peut-être on a besoin peut-être de se recréer de l'envie collective d'avancer vers un modèle de société qui soit un peu différent de ce qu'il a aujourd'hui. Mais il faut surtout pas, moi, ceux qui expliquent que c'était mieux avant, les 30 Glorieuses, vous savez, les 30 Glorieuses, c'est très simple. Hein. C'était, certes, il y avait du développement économique, mais c'était les femmes à la maison, c'était on tirait sur l'environnement comme des bêtes, sans regarder les conséquences, et c'était des conditions de travail très très dégradées pour les travailleurs, et une répartition de la richesse qui n'était pas non plus toujours idéale.
France Inter. Hashtag Question Paul.
J'ai envie de vous faire écouter quelqu'un que vous connaissez bien, parce que c'est vous. Vous étiez l'invité de C'est Politique le 14 mai 2017, c'était le jour de l'investiture d'Emmanuel Macron. Vous étiez l'homme qui peut-être allait lui susurrer à l'oreille les réformes qu'il devait conduire. Et on va vous écouter parce que vous aviez vu peut-être avant beaucoup d'autres l'état du pays tel qu'il est aujourd'hui.
Moi, j'attends beaucoup des mois à venir. Je crois que personne n'a intérêt à ce qu'on se plante. Parce que ce qui a été exprimé, je pense que le président de la République, le futur Premier ministre, il arrive à un moment où on est un peu assis sur un baril de poudre, parce qu'on sent beaucoup de mal-être, beaucoup de ressentiments, beaucoup de difficultés. Le sentiment de relégation, des gens qui pensent qu'ils sont abandonnés, la pauvreté, la précarité, un chômage très élevé, les services publics ont disparu d'un certain nombre de territoires, et donc la cohésion sociale qui peut plus se faire. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin de jouer avec les allumettes, quoi.
Jouer avec les allumettes, on a eu les gilets jaunes depuis, on a aujourd'hui un climat de campagne délétère. Est-ce que vous dites que là, c'est le grand échec du quinquennat ?
D'abord, il n'est pas fini, donc. Moi, j'avais dès le lendemain de l'élection écrit une lettre ouverte qui était parue dans Le Monde, où j'avais dit partager le pouvoir. Et j'avais fait à peu près ce même constat en disant il y a beaucoup de sujets qui mériteront qu'on discute les uns avec les autres. Et c'est vrai que pendant longtemps dans ce quinquennat, la société civile, mais y compris les corps intermédiaires, je parle des élus locaux, d'ailleurs on voit bien
les syndicats.
Que des syndicats, des organisations patronales, des associations ont été mises un peu à l'écart. Et ça sert à quoi tout ça ? Derrière la critique qu'on fait souvent à l'engagement collectif, ça sert à respirer un peu les situations, à faire que des intérêts contradictoires se confrontent pacifiquement pour essayer de trouver des solutions.
Ça sert à hiérarchiser des revendications. J'ai envie d'inverser le raisonnement, c'est-à-dire est-ce que il n'y a pas une verticalité très forte du quinquennat parce que justement tous les corps intermédiaires étaient très affaiblis et ne remplissaient peut-être pas suffisamment la mission de, au fond, faire les réformes nécessaires.
Laurent Berger, l'œuf ou la poule ?
Mais enfin, je crois que c'est pas vrai. Vous savez, je crois qu'il y a eu un rendez-vous manqué, c'est qu'en mars, le 31 mars 2017, la CFDT est devenue la première organisation syndicale dans le privé. En décembre 2018, elle est devenue la première organisation syndicale tout confondue. Moi, je veux bien qu'on nous fasse le critique, alors on nous fait la critique inverse, mais qu'on n'est pas, assez constructif, on n'est pas capable de passer des compromis, etc., ce qui est totalement faux.
Vous parlez de vous, mais les autres organisations syndicales...
Je crois qu'il y en a d'autres qui sont capables de le faire, et que lorsqu'on les renvoie dans un rôle de pur commentateur, elles adorent ça, donc elles le font. Mais je crois qu'il n'y a pas eu assez de mise en responsabilité. Enfin, moi, là aussi, au niveau européen, où j'ai un peu plus de regard maintenant, à chaque fois qu'on met en contrainte de résultats des acteurs pour essayer de trouver des solutions, elle les trouve. Ça crée de la controverse, mais ça crée de la partage. Il s'est fait des choses bien dans ce quinquennat, il ne faut pas se raconter d'histoire.
Lesquelles ?
Sur le terrain social, je peux vous dire, le congé paternité, c'est une bonne chose. Il s'est fait le Ségur de la santé. Il s'est fait. Il y a eu des choses, y compris sur les questions sociétales, qui ont de l'importance pour nous, qui est dans le PLFSS. C'est le remboursement de la contraception pour les moins de 26 ans, etc. Il y a des choses très bien qui se sont faites. Mais à chaque fois, ça s'est fait de façon unilatérale. Sauf le Ségur de la santé, j'enlève, là il y a eu une négociation.
Et la gestion de la crise sanitaire qui a été finalement assez négociée ?
Eh bien la gestion de la crise sanitaire a été très négociée. Mais regardez, tel que c'est présenté aujourd'hui, c'est de dire on a été fort, on a maintenu l'économie et on a maintenu l'emploi. Je peux vous dire, toutes les semaines, deux fois par semaine même au début, les organisations syndicales, les organisations patronales étaient avec les ministres concernés à travailler sur les solutions. Et une partie des solutions, je peux vous dire, parfois c'est le patronat, parfois c'est les organisations syndicales qui les ont données. Eh bien, ça grandirait le gouvernement de dire collectivement, on a réussi. Collectivement, okay. Y compris la responsabilité des syndicalistes dans cette période. Je vais vous dire, si on avait voulu mettre le feu dans cette période, on l'aurait mis le feu.
Alors, avant de mettre
et on a une grande responsabilité.
Comment vous auriez fait ?
Ben, tout simplement, on aurait dit aux salariés, voilà, c'est le bordel, faites comme vous voulez, etc. On a tenu le truc. On a donné y compris sur la question sanitaire. Vous croyez que ça se passe comment et on est traité comment sur les réseaux sociaux lorsqu'on dit que la vaccination obligatoire dans certains métiers, c'est important. Lorsqu'on dit que le pass sanitaire, eh bien, oui, c'est les moyens de vivre autrement. Ben, vous croyez que ça se passe comme ça qu'on n'est pas, embêté, excusez-moi, je pourrais dire un autre terme. Eh bien, on assume notre part de responsabilité. Et, c'est vrai, pour ne pas polariser sur nous, c'est vrai des élus locaux aussi. Et que ce sentiment que tout se déciderait d'en haut et diffuserait, ça ne marche plus. Ça ne marche plus pour deux raisons. C'est que les Français eux-mêmes veulent de la prise sur les choix qui les concernent. Et la deuxième raison, c'est que l'État, de toute façon, s'est coupé les bras depuis 15 ans maintenant, avec pas suffisamment de capacité à faire dans les territoires. Il est bien obligé de se reposer sur d'autres.
Alors, Laurent Berger, dans une interview au Parisien ce matin, vous dites qu'il faut répondre aux attentes sociales des Français pour lutter contre l'extrême droite. Aujourd'hui, si on fait un total extrême droite, en gros, on atteint 30%. J'agglomère.
Dans les sondages.
Si je peux me permettre, on est des sondages, Marine Le Pen, Éric Zemmour, sans contribuer encore au débat autour d'Éric Zemmour. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène ? Vous vous dites horrifié. Mais est-ce que c'est être horrifié, c'est suffisant ?
D'abord, je ne suis pas le dernier à dire qu'il ne faut pas tomber dans cette impasse-là. Mais c'est difficile en ce moment, vous savez, de répondre à des questions, d'être en interview et qu'on ne nous pose pas les questions sur...
Attendu 49.
C'est vrai, mais c'est très bien, je vous en félicite. Les attentes sociales, c'est des réponses à hauteur de femmes et d'hommes, c'est qu'on parle du travail. J'en parlais en début d'interview. Si on parle du travail, on parle de ce que vivent les gens à peu près tous les jours chacun. Si on leur redonne des possibilités d'agir, si on met en valeur ce qui se passe dans les territoires, de très belles choses, on ne le met jamais en valeur. On a l'impression que le monde serait en train d'attendre le débat public national, le brouhaha qu'on est tous en train de faire les uns et les autres, et que rien ne se passerait. Moi, je vais vous dire, toutes les semaines, quand je vais voir des militants et militantes de la CFDT qui font le boulot sur le terrain, je reviens gonflé, je suis ébahi de capacité à faire, d'entraîner, etc. Et c'est vrai dans la vie quotidienne sur les questions environnementales, par exemple, des choses très bien qui se passent dans les territoires, entre les citoyens, etc. Donc il faut qu'on remontre, il faut arrêter de nourrir le misérabilisme et le désespoir en permanence, mais il faut poser les vrais constats sur là où sont les fractures, là où sont les inégalités, et d'arrêter de considérer que toute chose est égale par ailleurs, et qu'on a juste à avoir un débat national qui finalement, vous savez, s'il n'y a pas eu de faillite, on est d'accord, on craignait les faillites. Il y a un an, on disait il y a une faillite depuis un an. Il y a une faillite. C'est le débat public. C'est le débat politique. Là, c'est une totale faillite.
Comment on fait pour redresser ?
En repartant à hauteur d'hommes et de femmes dans le débat public. Quelles sont les préoccupations ? Moi, je suis désolé, ceux qui exercent des responsabilités devraient en permanence regarder ce que sont les préoccupations. Les préoccupations, c'est la question sociale. Avec la question du travail, mais la question du pouvoir d'achat, c'est la question économique, c'est la question environnementale qui est très haut dans les préoccupations, et en se disant, on fait des propositions autour de ce sujet.
Mais l'immigration dont vous parliez tout à l'heure avec Alexandre Ben Saïd fait partie aussi des préoccupations des
plus gens. Bas dans la liste. Et
ça, j'en suis pas certaine en fait.
Je crois qu'il faudra regarder le baromètre, par exemple, de la Fondation Jean Jaurès qui fait des choses en continu. Il faut toujours regarder ce qui se fait en continu parce que les photos, c'est jamais.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, du coup, Éric Zemmour ne dit pas tout haut ce que beaucoup d'ouvriers pensent tout bas?
Pas dans les rangs de la CFDT, et moi je refuse de croire que les ouvriers penseraient ça plus que les cadres supérieurs ou que les... Vous savez, moi je viens d'un milieu ouvrier où les valeurs avaient un sens particulier. Et donc je crois pas que ce soit que ce soit une catégorie particulièrement. Je pense que l'incertitude dont je parlais tout à l'heure dans le climat global, il donne une tentation de se dire que peut-être c'était mieux avant. Et peut-être, si on se repliait sur soi-même, on était finalement aigri, rabougri, une France pas ouverte, etc., ce serait mieux.
Mais est-ce que la gauche ne doit pas se battre pour imposer ses idées ? Je sais que vous dites tout le temps, c'est pas mon affaire, c'est les partis politiques.
Effectivement, c'est pas mon affaire, je suis syndicaliste.
On a plusieurs ou quatre candidats de gauche,
c'est un peu votre affaire.
On n'atteint même pas les 30 et personne ne se parle. Donc
Je vais vous décevoir, mais je vais vous dire que c'est leurs affaires.
CFDT, l'histoire de la CFDT, elle a accompagné la deuxième gauche, elle a été dans le débat politique, elle a été dans le combat militant. Donc vous pouvez pas dire que c'est
CFDT,
pas votre affaire.
Madame Fressoz, la CFDT, elle est dans le débat politique. On fait des propositions et on va en faire à partir du 5 novembre avec l'alliance qu'on a créée qui s'appelle le Pacte du pouvoir de vie. 65 organisations.
C'est bien parce que vous éprouvez.
On est dans le débat politique et on assume de dépasser notre cœur de métier, Moi, je considère qu'on peut être dans le débat politique quand on fait bien son cœur de métier, qu'on travaille bien sur l'emploi, sur le travail, sur la protection sociale, sur les salaires, ce qu'on fait aujourd'hui à la CFDT. Mais oui, on est dans le débat politique. Oui, on brasse des idées. Oui, on intervient et on dit ce qu'on pense. Mais notre rôle aujourd'hui, clairement, il n'est pas dans une logique partisane. Il n'y a pas de candidat de la CFDT. Il n'y aura pas de candidat de la CFDT. On dira ce qu'on pense. Notre vision, elle est
vous
claire.
Vous direz contre, en fait. Vous direz ce que vous
non,
voulez
non,
pas.
Non, on dira ce qu'on veut.
Est-ce que malgré tout,
on dira ce qu'on veut. On dira qu'on veut pas effectivement l'extrême droite. Ça, c'est clair. On l'a toujours dit. Sans ambiguïté.
Contre.
Sans ambiguïté. Vous savez, moi, j'attendrai pas les deux tours pour dire. Je le dis déjà encore ce matin dans le Parisien, mais je le dis en permanence à CFDT clairement. Quand il y aura quelqu'un de l'extrême droite en face, elle dira de voter pour l'autre.
Mais
on n'aura pas, on fera pas campagne pour quelqu'un. On apportera des idées, que chacun s'en saisisse. Et après, sur les stratégies électorales, là, permettez-moi de vous dire, ça ne regarde pas. C'est pas notre capacité à faire.
On ne vous demande pas
la
stratégie électorale que vous souhaitez, mais est-ce qu'il y a un candidat aujourd'hui dans tout ce qu'on entend?
On vous le demande pas, mais
non,
on vous demande quand même.
Mais qu'a un ton,
vous êtes pas qu'a désespéré,
un ton, qu'a un ton plus juste que les autres?
Non, je crois qu'il y a beaucoup
moins radical.
Je crois qu'il y a beaucoup de candidats. Le problème, c'est quand ils doivent faire parler uniquement à leur camp. Vous savez, pour être président de la République, il ne faut pas parler qu'à son camp. Ça paraît banal de dire ça, mais c'est un peu la réalité quand même. Je crois qu'il y a plusieurs candidats de tous bords qui portent des choses qui peuvent être intéressantes. Et d'ailleurs, qui sont des fois pas si éloignées les unes des autres. Mais maintenant, c'est leur responsabilité d'aller convaincre les Français et de s'inspirer de ce que d'autres font. Enfin, notre société, la société civile, elle n'est pas à l'arrêt sur la production d'idées.
C'est qu'elle un peu s'en saisissent. Qu'on a en fait, parce qu'elle a du mal à parler, à se faire entendre.
Laurent Berger,
en fait.
On parle très très peu du travail pour l'instant dans la campagne. Il y a Xavier Bertrand qui parle de la valeur travail. Est-ce qu'il pose, parce qu'on veut quand même évoquer un peu des personnalités politiques du moment, est-ce qu'il pose des bonnes questions et offre des bonnes réponses à ce sujet qui est le vôtre?
Je pense qu'à partir du moment où on parle du travail, on pose des bonnes questions. Donc moi, je ne considère pas que le travail soit une valeur. Je considère que le travail, c'est un lieu d'émancipation, quelque chose de très important pour les citoyens, qui est aussi un lieu de progression, puis qui peut être un lieu d'aliénation pour certains d'entre eux. Mais oui, il faut parler du travail. Il parle, par exemple, M. Bertrand, de la répartition des salaires. Alors après, la question, c'est toujours pareil. Et je ne parle pas de lui en particulier là. Si on parle des salaires en expliquant qu'il faut baisser les cotisations pour qu'il y ait moins de protection collective, là, la réponse, elle est non, parce que c'est pas comme ça que ça marchera. Donc, vous savez, il faudra regarder un peu au global ce qui est proposé par les uns et les autres. La CFDT ne sera pas dans une logique de jury, hein. Moi, je n'ai pas cette arrogance-là, mais elle dira, voilà, nous voilà ce qu'on porte. Et on va porter, avec le pacte du pouvoir de vivre, on va porter notre vision d'un modèle de société plus écologique, plus juste. Et il faudra de la régulation internationale, de la régulation européenne, régulation nationale. Il faudra de la répartition de la richesse, un partage des responsabilités, parler du travail et une reconnaissance du travail beaucoup plus forte, parler de la pauvreté. Vous savez, moi, je rêve, en fait, à ce moment de bascule qu'est le nôtre en sortie de crise sanitaire, qu'on se dise, voilà, on a 10 indicateurs. Le PIB en est un. Mais ça ne peut pas être le seul. La question de la biodiversité, de l'éducation, de l'investissement dans la recherche et l'innovation, la question de la santé, de la pauvreté. On a ces indicateurs et voilà ce qu'on va faire pour progresser sur chacun de ces indicateurs.
Alors, Françoise Fressouze.
Comment vous avez appréhendé la primaire verte? Est-ce que, au regard de ce que vous décrivez, c'est-à-dire le gros enjeu, c'est la transition écologique, est-ce que l'opinion publique a les outils pour, au fond, dire oui, on peut y aller sans trop se préoccuper parce que on va être couvert, ou est-ce que ça reste très très elliptique?
Et je précise que le pacte du pouvoir de vivre que vous avez évoqué plusieurs fois avait été lancé notamment avec Nicolas Hulot.
Mais très clairement, je pense que les citoyens, ils ont conscience de ce qui est en train de se passer. Enfin, pendant l'été, au-delà de quelques caricatures le samedi, il y a quand même eu une catastrophe climatique par semaine sur la planète. C'est ça la réalité. Je pense que les citoyens, ils sont pas du tout idiots. Ils savent bien qu'ils ont une espèce de mur devant eux et qu'on a collectivement un mur devant nous sur ce réchauffement climatique. On a besoin de bouger. Alors bouger dans nos usages personnels, nos usages collectifs, puis de bouger par des investissements massifs qui vont bouleverser nos vies d'une certaine manière. Et donc, je pense qu'il faut un langage de vérité. Enfin, je veux dire, moi, je crains. Il y a deux risques à éviter dans la campagne telle qu'elle va. C'est le côté, on va faire de la sueur et des larmes, et vous allez voir, c'est comme ça que vous serez heureux. Enfin, voilà. Et puis de l'autre côté, en disant, ne touchons à rien. Finalement, faut juste faire quelques ajustements. Non, il va falloir dire oui. Il va falloir raconter. Raconter, je crois, qu'il y a des secteurs professionnels, comme on vient de le faire sur l'automobile. Vous parlez de Nicolas Hulot. Avec la Fondation Nicolas Hulot et la CFDT, on vient de sortir un rapport sur l'automobile. C'est pas simple quand même pour des syndicalistes de porter avec des écologistes une vision sur l'automobile qui montre que parce qu'on va accélérer la transition écologique, on va supprimer moins d'emplois dans le secteur automobile que si on laisse faire. Mais on va quand même, il y a des impacts sur l'emploi. Donc il va falloir dire ces choses-là. Et après, il va falloir regarder dans les territoires ce que ça veut dire en termes d'accompagnement. Alors je sais, hein, ça fait pas rêver, parce que je pourrais dire, il faut trouver ici ou là des trésors qui permettront que tout le monde soit heureux demain. Mais c'est pas le cas. Mais si on dit les choses comme ça, moi je suis, et après, il faut aller voir les gens concernés, hein. Faut être avec les gens concernés.
Faut et être si lucide, on l'est. Y compris sur le nucléaire, en se disant, ça durera peut-être plus longtemps, mais c'est propre, et ça sauve peut-être quelques emplois.
Ouais, sans doute, ouais.
Et donc,
ouais, sans doute, ça ne veut pas dire qu'on ne revoit pas notre mix énergétique.
Il faut oser dire que le nucléaire, ça sera peut-être pas...
En tout cas, dans l'évolution du mix énergétique, où je crois que les énergies renouvelables doivent être plus importantes que ça, eh bien, il y a encore une part pour le nucléaire pendant un bon moment, notamment parce qu'il y a un problème d'économie carbonée et de risque climatique.
Merci Laurent Berger, j'espère qu'on a prouvé en une heure qu'on pouvait avoir un climat apaisé avec un débat d'idées sans trop parler de l'écume des choses. Merci beaucoup à la bande de questions politiques pour ces bonnes questions. Merci Thomas Langlin qui était à la réalisation de cette émission, Jean-Philippe Ballas et Alexandre Gilardi pour la préparation. À dimanche prochain pour un nouveau numéro de questions politiques.